Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Bien, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre intitulé « La guerre mondiale n'aura pas lieu », sous-titré « Les raisons géopolitiques d'espérer ». Il a été écrit par Frédéric Ancel, c'est publié chez Odile Jacob, 285 pages, pour le prix de 23,90 €. Alors Frédéric Ancel, il est docteur en géopolitique. Il a eu le bac, il a fait des études à Nippocagne, à Sciences Po Grenoble, puis il a étudié la géopolitique, obtenu un doctorat à l'Institut de géopolitique avec la thèse géopolitique de Jérusalem, représentation, stratégie et perspective autour d'une cité sanctifiée. Alors ça a été écrit sous la direction, c'est important, d'Yves Lacoste. Bon, il a eu les félicitations du jury. Pourquoi Yves Lacoste ? Parce que c'est un géographe et dans cette discipline, la géographie est quand même un peu reine. Alors il a une habilitation à diriger des recherches, hein, ça c'est très universitaire, à l'Institut de géopolitique à l'Université de Vincennes-Saint-Denis, et puis les spécialistes du conflit israélo-palestinien, bon, c'est vous dire qu'il est quand même dans l'actualité aujourd'hui, et ses travaux et publications portent sur les questions stratégiques, les relations internationales du Moyen-Orient en particulier. Alors c'est un homme qui est assez médiatique, que l'on peut voir ou entendre, hein, sur les radios et voir à la télévision, notamment sur Arte, où je l'ai vu plusieurs fois. C'est un homme extrêmement pertinent et qui maîtrise parfaitement son sujet. Alors, il est édité par Odile Jacob. Ce sont des éditions très intéressantes, elles sont un peu atypiques, et puis surtout, Odile Jacob est une éditrice assez flamboyante, donc maison d'édition française, indépendante, qu'elle a fondée. Et elle est aidée aujourd'hui par son conjoint, Bernard Gottlieb, fondée en 1986. Elle a tourné un peu dans quelques maisons d'édition, chez Jean-Claude Lattès, et puis un temps chez Fayard. Alors c'est une maison d'édition qui est spécialisée dès sa création dans le domaine de la vulgarisation scientifique, en publiant des ouvrages signés par d'importants scientifiques français et étrangers, faisant le point sur leur discipline et présentant les résultats de leurs recherches les plus avancées à un large public. Donc comme je vous le disais, maison intéressante, on dit que Jacob est un cas singulier dans l'édition française, avec un concept éditorial entièrement inventé par elle, autrement dit rendre les sciences accessibles à un très large public, en faisant parler les savants des enjeux sociétaux et culturels de leurs théories. Alors on comprend que les polémistes et les livres à scandale n'ont pas de place chez Odile Lafon. Et comme l'a dit un de ses confrères, Alexandre Wickham, qui est le directeur éditorial d'Albin Michel, sa position est plus difficile, élitiste, et plus difficile à défendre aujourd'hui auprès des circuits commerciaux et du public, comme on le comprend. Alors le thème, je vais vous donner lecture de la quatrième, d'une partie de la quatrième de couverture, vous allez de suite comprendre de quoi il s'agit, la voici. Selon certains, nous serions à l'aube d'une guerre mondiale, voire déjà en plein conflit planétaire. Massacre de masse à l'est de l'Afrique, rivalité économique et technologique exacerbée entre la Chine et les États-Unis, guerre en Ukraine et au Proche-Orient, augmentation des budgets militaires, tensions autour de Taïwan et du nucléaire iranien, cyberattaques contre des infrastructures et les relais d'information. Le climat géopolitique est en effet délétère et inquiétant. Pourtant, la posture apocalyptique n'a pas de sens. Voilà, donc c'est, je crois qu'on comprend très bien quel est le sens de ce livre. Alors on se reporte un peu à la table des matières pour voir comment il est fait. Donc la table des matières que je vais trouver, voilà. La table des matières, c'est plusieurs parties, il y en a 7 en réalité. Alors je ne peux pas vous donner les intitulés des chapitres, ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux pour vous et pour moi aussi. Première partie, le choc des civilisations est un fantasme. Hein, choc des civilisations, ça correspond, ça doit vous parler. Il y a un livre d'Huntington là-dessus, qui est démonté d'ailleurs par Frédéric Ancel dans ce même livre. Les régies politiques, deuxième partie, ne se suicident pas. Troisième partie, alliances rares et fragiles, armes et armées douteuses. Quatrième partie, quand les populations renâclent à accepter la guerre. Cinquième partie, mourir pour le monde arabe, point d'interrogation, pour l'Afrique, point d'interrogation, pour Jérusalem, point d'interrogation. Sixième partie, tension économique, climat, démographie, des facteurs de guerre mondiale, point d'interrogation. Et septième partie, qui ne vous étonnera pas, l'énigme Trump. Alors, comme rituellement, je vais vous lire quelques passages brefs, mais ça vous permet un peu de juger et de la qualité de l'écriture et aussi de l'ambiance de ce livre. À la limite, je suis au tout début, page 38. À la limite, le moins inopérant de ces postulats correspondrait à une civilisation russe, en admettant, là encore avec effort et contorsion intellectuelle, la légitimité de l'acception face à l'Occident global, pour reprendre la terminologie de Vladimir Poutine. Effectivement, le monde russe à lui seul correspond aux critères d'une civilisation et la guerre en Ukraine s'est produite en autre motif invoqué par Moscou au nom, ouvrez les guillemets, d'une rivalité de civilisation, fermez les guillemets, contre celle décadente, occidentale et européenne en particulier. Cependant, on entre là dans les représentations instrumentales. Ce n'est pas parce que le Kremlin tente de justifier a posteriori l'invasion de l'Ukraine en 2022, entre autres prétextes anti-nazis, par une argicie d'ordre civilisationnel qu'il s'agit d'une réalité objective. Bien plus prosaïquement, la question ukrainienne relève du politique, crainte russe de la porosité démocratique et tentative de renforcement d'un pouvoir personnel en interne, du stratégique, rejet d'une hypothétique adhésion future à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, de l'idéologique, grande Russie à reconstituer qu'elle fût tsariste ou soviétique, voire de l'économie, blé et hub énergétique. Voilà pour le premier passage, et puis on va aller beaucoup plus loin dans le livre, à la page 149, que je vais trouver sans nul doute. Voilà, quelques lignes. Or, si déjà, face à la modeste armée ukrainienne et pour défendre un territoire établi comme russe et libéré ou à libérer des griffes nazies, entre guillemets, la population et l'armée russe montrent globalement si peu d'empressement, serait-elle prête à soutenir un combat contre l'OTAN et donc contre les États-Unis dans une confrontation qui prendrait nécessairement l'aspect d'une guerre mondiale. On peut en douter, d'autant plus sérieusement que les souvenirs, d'une part, des pertes abyssales de la Grande Guerre patriotique 1941-1945, d'autre part, celle bien moindre, mais considérable tout de même, de la guerre d'Afghanistan 1979-1988, demeure extrêmement cuisant. Et rien n'indique que les fanfaronnades virilistes d'un Vladimir Poutine surventant la force brute et moquant fréquemment la décadence occidentale suffiraient à convaincre une population lasse et meurtrie par au moins un siècle de violence guerrière et ou despotique extrême. Voilà pour les deux sujets. Les deux lectures, pardon, donc vous voyez, hein, c'est une lecture extrêmement simple que tout le monde peut aborder, il n'y a aucune difficulté, c'est pas pédant, c'est pas scientifique, c'est clair pour tout le monde, et c'est même, c'est plus que clair, c'est éclairant. Alors conclusion de l'essai, ils n'en ont pas tous les essais de conclusion, mais là il y en a une, et Frédéric Ancel nous dit, eh bien, il y a trois constantes absolues qui prévalent en géopolitique, la première qui dépasse largement son champ, et que l'île ne sait de quoi l'avenir sera fait, hein, c'est de bon sens. Deuxième constante, la posture apocalyptique n'a strictement aucune utilité. Et la troisième constante, c'est l'irréductibilité des sempiternels rapports de force. Des périls menacent, bien entendu, il nous le dit très nettement, que nous n'avons pas à chercher à minimiser. Il y en a autour de Taïwan, du Cachemire, des crises climato-migratoires, et puis il y a toujours, ajoute-t-il, le possible avènement d'un docteur Folamour, d'Onuburois, ou d'un autre apprenti sorcier ou cynique, hein, ça, les exemples. Les noms peuvent vous venir facilement à la tête, dans la tête. Nous dit aussi que la technique communicationnelle moderne permet aux chefs d'État et de gouvernement de se parler de manière quasi immédiate, ce qui, normalement, devrait permettre d'évacuer un maximum de tensions, parce que dès qu'on se parle, eh bien, finalement, tout va mieux. Alors, il nous cite un passage. Il s'inquiète quand même, hein, Frédéric Ancel. Il nous dit le spectre de la guerre s'éloignera d'autant plus si nous, démocrates européens, décidons de ne pas demeurer passifs devant les grandes et très rapides évolutions du monde, de ne pas sombrer dans une sorte d'apathique fatalisme morbide, et puis d'assurer l'incontournable jeu des rapports de force. Si nous nous y refaisons, eh bien, on va disparaître tout simplement du peloton de tête des puissances considérables. Alors, on parle de l'Europe, là, bien sûr. Et il nous cite Raymond Aron, qui était quand même un penseur et spécialiste des relations internationales. Et on demandait un jour à Raymond Aron si les démocraties pouvaient l'emporter contre les régimes autoritaires. Il avait répondu par l'affirmative. Il a dit oui, bien sûr, mais... Et là, on cite Raymond Aron, à condition qu'elle le veuille. Donc, voyez un peu vers où nous entraîne Frédéric Ancel. Alors, pourquoi faut-il lire ce livre ? Faut-il le lire ? Et puis, il faut le lire, hein, ça, je vous le confirme. Que nous apprend-il ? Bien, d'abord, c'est un livre qui va nous permettre de réviser notre géographie. Je vous l'ai dit en démarrant, Frédéric Ancel, il a été formé par un géographe, ça se sent. Ça se sent d'autant plus qu'il a émaillé de cartes son livre. Hein, il y a des cartes à peu près à tous les chapitres, il y a des multiples enseignements. Dans ces cartes, c'est très riche. Bon, c'est en noir et blanc, donc il faut un peu avoir de bonnes lunettes pour ceux qui ont les yeux fatigués, mais c'est quand même des cartes qui nous amènent beaucoup, beaucoup d'enseignements. Et puis après, c'est un livre qui nous fait travailler notre géopolitique par les temps qui courent. C'est quand même important. C'est clair, c'est précis, c'est renseigné, c'est documenté. Encore une fois, c'est d'une lecture aisée, même pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ce domaine. On va y apprendre une foultitude de choses, et surtout, il y a des rappels historiques bienvenus qui éclairent les situations actuelles, parce que celles-là ne viennent pas de nulle part. Il faut toujours se reporter, regarder un peu derrière nous pour comprendre où on en est aujourd'hui. Alors, si on veut comprendre les enjeux actuels, se familiariser avec les soubresauts qui agitent notre monde, et souvent violemment, hein, vous le savez, il faut lire ce livre. Apprendre et comprendre constitue déjà important, un pas important vers ce qui nous manque le plus aujourd'hui, devant le triste spectacle que nous donnent les hommes. Eh bien, nous pourrons peut-être, à travers ce livre, retrouver une sérénité relative et peut-être une détermination renouvelée, apaisée, même modestement, dans les affaires du monde. Voilà, c'était Essai marquant par Jacques Lavergne avec à la réalisation l'indispensable Grégoire Nachez. Bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à tous.